tous, bienvenue dans un nouvel épisode de La Chose Commune. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'artificialisation des terres. L'artificialisation des terres dépossède les paysannes et paysans de leurs outils de subsistance et de travail, les terres agricoles. Et si la France perd ses terres agricoles, elle perd ses fermes. En 10 ans, 100 000 exploitations ont disparu et d'ici 2030, un quart des paysans va partir à la retraite. Or, la nouvelle génération se fait attendre, rebutée par le prix du foncier. Pour répondre à l'urgence de ce constat, la Confédération Paysanne 41 organise ce 31 mars une action Poisson d'avril, une fausse cérémonie d'installation de paysans sur des terres vouées à devenir des lotissements. Cette action permet d'interroger sur la question primordiale de la sécurisation de l'accès aux fonciers agricoles. La Confédération Paysanne se bat depuis longtemps pour une plus grande régulation. Et pour en parler, nous nous sommes entretenus avec Élise Guélier, trésorière de la Confédération 41, et Paul-Emmanuel Boulet, porte-parole. Bonjour Élise, bonjour Paul-Emmanuel, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ?
Alors moi je m'appelle Élise Guélier, ça fait 10 ans que je suis installée sur la commune de Azé, dans le nord du 41, dans le nord du département. J'élève des chèvres, je suis associé avec Julien Porc, on fait aussi des légumes, on est en bio, on transforme tout en fromage. Et après, de par mon boulot, je suis à la Confédération Paysanne, c'est un syndicat agricole, et je suis élu chambre, je représente la Confédération Paysanne à la Chambre d'Agriculture.
Moi, Paul-Emmanuel Boulet, je suis paysan en polyculture élevage sur la même commune qu'Élise à Azé. Moi je produis des porcs, je fais la transformation à la ferme et je produis des porcs en plein air, donc que je nourris avec mes céréales que je produis. Pareil, je suis installé depuis presque 10 ans bientôt, et je suis le porte-parole de la Confédération Paysanne du Loir-et-Cher. Voilà, pour me présenter rapidement.
Depuis combien de temps la Confédération Paysanne existe en Loir-et-Cher?
Je dirais 25, 30 ans.
Et quelles sont ces missions principales?
La mission principale, c'est la défense des paysans. Donc, voilà, que ce soit, en fait, pas forcément, enfin, ça peut être des paysans en difficulté, mais pas que, sur des problématiques qu'ils peuvent avoir liées à une installation, liées à des contrôles.
C'est un syndicat, quoi. Donc, ils sont là pour défendre des valeurs, quoi.
Voilà, nous, ce qu'on défend, c'est une agriculture paysanne. Donc, il y a une belle fleur qui correspond à la définition de l'agriculture paysanne, avec plein de valeurs qu'on défend assez fortement. Par exemple, le respect de l'environnement, l'emploi, l'autonomie des fermes. Un revenu, ce qu'on défend aussi, c'est que chaque paysan ait le droit à un revenu. Ben voilà, c'est quand même une agriculture portée, une agriculture à taille humaine, en fait, si vous voulez, ce qu'on défend. Voilà.
Alors, vous allez mener le 1er avril prochain une action Poisson d'avril. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
En fait, oui, on essaie aussi de trouver un peu des nouvelles formes de contestation aussi. Hein. C'est par ce biais-là qu'on se sert du 1er avril aussi pour pouvoir faire, en fait, l'idée, là, c'est de faire une sorte de canular, une fausse cérémonie d'installation de maraîchers sur la commune de Vendôme, sur des terres qui sont potentiellement viables pour installer 4 maraîchers et pourquoi pas fournir la cuisine centrale. Et sauf que ces terres-là sont vouées très probablement à une construction de lotissement, quoi. Voilà, donc l'idée, c'est de faire vraiment, on va simuler une cérémonie d'ouverture, d'installation de maraîchers. En fait, l'idée, c'est de faire ça jeudi 31 mars pour une parution dans les journaux le 1er avril.
Voilà. D'accord. Quel est l'enjeu ici à Vendôme et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la loi Egalim qui est liée à cette action?
Avant, la loi Egalim impose aux communes, aux communautés de communes de faire plus attention à l'alimentation qu'ils vont proposer à leurs citoyens sur leur territoire.
Pour être plus précis, en gros, ils ont l'obligation d'introduire dans les cantines scolaires 50% de produits locaux, dont 20% de produits labellisés. Donc ça peut être bio, ça peut être Label rouge, c'est ça, oui.
Ouais.
Voilà, ce genre de label, voilà, pour être plus précis.
Et du coup, le problème de cette loi Egalim, c'est qu'elle est, c'est une loi politique faite par des politiques et sûrement pour des politiques. Et du coup, elle n'est pas forcément appliquée. Enfin, elle part d'un bon principe, mais elle est des fois difficilement applicable pour les gens et elle est d'un ressort qui est purement politique. Sur la commune de Vendôme, par exemple, il y a déjà une cuisine centrale qui fournit les écoles, les collèges, certains EHPAD, je crois, et même ça fournit pas un peu l'hôpital. Et en fait, ils aimeraient pouvoir installer un ou plusieurs maraîchers avec des systèmes, des contrats d'insertion pour en plus avoir une vocation sur l'emploi. Donc c'est un beau projet. Mais la mairie de Vendôme, pour l'instant, les terres qu'elle avait dédiées pour ce projet-là, c'est des terres qui ne sont pas viables pour la culture de légumes, par exemple. Il n'y a pas forcément d'accès à l'eau. Et l'exemple le pire, c'est l'ancienne déchetterie. Où bah là on met un coup de si on met un coup de bêche, il y a du plastique plein les terres quoi. Enfin, c'est pas du tout vocation pour nourrir les gens quoi.
Et puis bah, pour compléter, en fait, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont fait ils ont demandé un diagnostic auprès de Biocentre, donc pour avoir aussi un diagnostic un peu technique sur le potentiel, et ce diagnostic a été et n'est pas bon, hein. Quand ils se sont rendus, c'est que c'était pas ça allait être très compliqué. Mais voilà, malgré ça, ils veulent quand même installer à cet endroit-là, alors que l'endroit où on va faire l'action, c'est un endroit où il y a l'accès à l'eau qui est tout proche parce qu'il y a le Loir qui coule à côté, il y a des logements sociaux qui sont juste à côté, donc qui pourront facilement intégrer des gens qui sont en réinsertion sociale. Il y a un local technique de la ville de Vendôme qui est pas utilisé, juste en bordure de la parcelle. Je veux dire, il y a tout, en fait, pour pouvoir le faire. C'est presque trop gros, en fait. Mais bon, voilà, après, il y a la puissance de des lotissements et et du capitalisme, hein, quelque part, hein, c'est l'argent aussi qui, malheureusement, qui prend le dessus sur la possibilité de faire une alimentation, de proposer une alimentation saine, hein.
Donc même au niveau local, on voit que ça pose vraiment des soucis, cette artificialisation des terres. On en parle souvent au niveau national, mais là, dans cet exemple concret de Vendôme, on voit que même au niveau local, les choix politiques sont très importants et très influencés par le catégorie.
Ouais, tout à fait. Hein. On dit qu'on perd par l'artificialisation des sols, par les routes qu'on construit, les ronds-points, les lotissements, mais on perd, je crois, un département par an. Hein. C'est quand même assez énorme de terres agricoles, hein, qu'on perd par an. Donc voilà, puis ça a des conséquences, en fait, derrière.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler la définition de l'artificialisation?
Bah alors
C'est le
après.
fait qu'une terre qui à la base est censée être nourricière n'ait plus aucune vocation à ça et qu'elle n'ait même plus de vocation. Par exemple, quand il pleut fort fort, la terre elle a vocation d'absorber une partie de l'eau pour mieux la rendre après, tout ça. L'artificialisation des sols, c'est qu'on va bétonner ou qu'on va goudronner ou. Et du coup, il n'y a plus aucune infiltration de l'eau qui est possible et puis aucune culture possible non plus vu qu'elle n'est plus vouée à ça, quoi.
Après, j'ai vu dans le sud, il y a des systèmes, un mec a inventé, j'espère que ça va prendre un peu d'ampleur, c'est des systèmes un peu de béton. Alors, je sais pas si c'est la solution, hein, des bétons absorbants. C'est-à-dire, ça absorbe quand même un peu l'eau. Ça fait quand même, parce que, voilà, la conséquence derrière, c'est que l'eau, après, provoque, enfin, ne s'infiltre plus. Et donc, du coup, c'est ce qui provoque aussi ce qu'on disait, les inondations, hein, à répétition qu'il peut y avoir. Bon.
Après, il n'y a plus que du ruissellement, quoi.
Oui.
Plus d'infiltration.
Alors, il y a certains sols qui sont non artificiels, qui sont imperméables, par exemple les roches. Est-ce que toute artificialisation elle est mauvaise à prendre selon vous?
Bah non puisque il y a quand même enfin on est quand même de plus en plus nombreux, on a des besoins, enfin on n'est pas contre le fait de construire forcément quelque chose, c'est juste les choix qui sont enfin c'est on s'aperçoit quand même que dans les villes, il y a aussi un paquet de logements qui sont fermés, qui sont ou pas des logements secondaires, hein, vraiment des enfin voilà qu'il existe un paquet d'endroits qu'on pourrait d'abord rénover. ou des anciennes usines, par exemple. Alors nous, à Vendôme, on n'a pas beaucoup de trucs comme ça, mais je sais qu'à Mer, qui est sur notre département, à Mer, il existe quand même plein d'usines un peu fantômes qui n'existent plus, et à côté de ça, il y a des projets de création sur des terres agricoles, de grands espaces pour multiples usines ou boîtes ou quoi que ce soit. Et là, c'est dommage parce qu'il existe. Alors des fois, peut-être que ça coûte plus cher de rénover, j'imagine, puisque enfin, je sais pas quel est l'intérêt de systématiquement faire ça, mais des fois, on devrait quand même mieux penser les projets et mieux intégrer ça dans un territoire plutôt que de s'étaler systématiquement, puisqu'après, on s'en est rendu compte avec le Covid, on s'en est rendu compte avec tout ça, qu'à partir du moment où on cherche d'un seul coup à être un peu plus autonome sur un territoire et à avoir les produits, soit de l'alimentation ou pas, proche, et ben c'est de plus en plus compliqué à partir du moment où les villes s'étalent et que ça ne fait que repousser l'agriculture un peu plus loin. Sauf qu'à un moment donné, on repousse jusqu'aux voisins et du coup après là il y a plus après on se raccorde et puis voilà, c'est terminé, il n'y a plus de terre agricole, quoi. Et reste quand même le manger et être autonome sur un même au niveau national, hein, sur un territoire. Ça reste un peu la base en cas de, enfin, on s'en rend bien compte là, en cas de problème, quel qu'il soit, européen, enfin, voilà, quoi.
Il y a, comme tu le disais, Élise, il y a un mitage des territoires ruraux et une multiplication des points de contact entre les sols artificialisés. Est-ce que vous, au quotidien, c'est quelque chose que vous notez aussi autour de vos exploitations?
Bah, nous, on a des systèmes. Des systèmes assez résilients quand même. On a plein d'œufs plantés partout. Moi, je fais moins de culture, mais Paul Emmanuel, dans son assolement, dans son système culturel, il fait en sorte que la terre, de pas appauvrir la terre, de jamais l'appauvrir, quoi.
Oui, voilà, nous, c'est notre logique aussi. Hein. C'est pas une logique forcément d'intrants, c'est-à-dire qu'on va, c'est la logique de complémentarité des plantes qui nourrissent la terre. D'autres vont pas avoir les mêmes effets sur la, enfin sur le sol, et donc du coup, c'est la complémentarité qui fait la qualité du sol, quoi. Après, ce que vous posiez comme question, c'était plutôt concrètement autour de nous par rapport à l'artificialisation, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ouais. Là, nous, enfin, pas forcément, on le voit pas tant que ça, mais c'est plutôt autour des villes. Enfin, on a eu le cas juste avant avec l'entreprise Vuitton qui s'est montée aussi, qui aurait pu très bien aller à un autre endroit, plus à l'intérieur d'une zone. Mais là, non, ils voulaient un espace bien propre. Et donc, après, l'argument fort, c'est effectivement, c'est la création d'emplois. Hein, mais ça, on est tout à fait en raccord avec ça. Mais c'est quand même 10-15 hectares en moins qui disparaissent comme ça.
C'est aussi sur l'engouement, c'est-à-dire que pour une entreprise comme ça, on remue un peu ciel et terre pour être sûr qu'ils vont s'installer et on est à peu près capable de tout faire en très peu de temps pour les installer, quoi. Là, en l'occurrence, il y a la ville de Vendôme, il y a la ligne TGV et ils sont juste derrière la ligne TGV. Et à côté, avant la ligne TGV, il y a déjà quelques boîtes qui se sont montées et il y avait sûrement de la place pour Vuitton aussi, avec déjà des ronds-points qui les desservaient facilement, avec déjà tout un tas de trucs. C'est juste que là, on se dit un peu, ça y est, ils sont passés de l'autre côté de la ligne, maintenant c'est le. Enfin voilà, j'imagine bien qu'un gros rond-point comme ça, c'est sûrement pas que pour eux. Enfin voilà, ça n'a pas vocation en tout cas forcément à rester agricole, je pense.
Et à faciliter l'installation de grandes entreprises aux dépens de plus petits paysans et autres.
Ouais, complètement, parce que plus derrière ça ramène aussi un autre sujet qui est le foncier, ce qu'on défend aussi très fortement avec la Confédération paysanne, c'est-à-dire que les terres coûtent de plus en plus cher. Et puis là, avec en ce moment l'augmentation des céréales, ça va pas dans le bon sens du tout. Enfin, l'augmentation des céréales conventionnelles, ça fait encore plus flamber les prix. Et forcément, moins il y a de terres agricoles, plus ça va coûter cher. Ça, c'est assez simple à comprendre. Et c'est plutôt un frein pour l'installation de nouveaux paysans. Notamment parce qu'aujourd'hui, on est à la recherche il y a 50% des fermes qui vont disparaître dans les 10 ans à venir. Donc, on a la recherche de plein de nouveaux porteurs de projets et beaucoup hors cadre familial. Donc, quand on dit hors cadre familial, ça veut dire pas forcément de patrimoine foncier déjà au sein de la famille. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'à un moment donné, pouvoir acheter des terres et ça peut être des fois un gros frein étant donné le coût, quoi.
Et donc, la Confédération paysanne, elle accompagne aussi dans l'installation de jeunes paysans.
Tout à fait. Ouais,
en lien avec l'ADR, qui, elle, s'occupe pas principalement de ça, mais quand même suit des projets avec des formations qui appellent les stages paysans créatifs, où voilà, ils accompagnent ce qu'on appelle des porteurs de projets dans leur montage de dossiers et dans leur réflexion en faisant aussi des stages dans différentes exploitations pour bien mûrir le projet, pour après pouvoir s'installer dans de meilleures conditions.
Et vous parliez de la question foncière, donc pour un jeune qui voudrait s'installer comme paysan et agriculteur, si jamais il n'a pas de ressources au départ, vers qui il peut se tourner pour résoudre cette question foncière ?
Eh ben, soit nous on a
financière
financière oui pardon
ouais. Alors soit en fait nous il y a un dispositif qui a été monté plus au niveau régional qui s'appelle la SIAP, donc ça c'est un peu de la mutualisation de fonds où c'est carrément le syndicat qui va aider à financer dans un premier temps. Après, sinon, il y a une grosse association qui est référence, mais qui s'appelle Terre de Liens, qui est aujourd'hui bien médiatisée grâce à Guillaume Canet. Mais mine de rien, c'est quand même un levier qui peut être intéressant, parce qu'en fait, c'est des citoyens qui peuvent acheter un bout de part sociale sur des terres et qui permettent d'aider à l'installation, parce que...
Après, il existe plein de systèmes, mais là, qui sont... qui existe déjà. Déjà, la banque. Nous, personnellement, moi, c'est la banque qui m'a aidé à financer. Hein.
Oui, c'est vrai, j'oublie le premier.
Après, il existe des montages de sociétés, par exemple, un GFA, qui est un groupement foncier agricole. Moi, j'ai déjà vu plusieurs exploitations monter comme ça. Donc, c'est une société. Et on peut ouvrir cette société, comme l'expliquait tout à l'heure Paul-Emmanuel, avec pas que les futurs paysans, mais ça peut être 40 personnes, 50 personnes qui, elles, mettent un peu d'argent achètent des parts de cette société. Ça aidera à financer le projet. Et après, ils se retrouvent membres d'une société qui a des parts. Donc, s'ils veulent partir, ils peuvent récupérer leurs parts et partir. C'est comme si on plaçait de l'argent, mais avec un... c'est pas un livret A, quoi. Pas avec un super taux, mais avec une super éthique et avec un beau projet derrière et l'envie de faire avancer les choses, quoi.
Je reviens sur l'artificialisation. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'elle est surtout concentrée dans les couronnes des pôles urbains. On note aussi une augmentation de l'artificialisation même dans des territoires où la population n'augmente pas. Par exemple, dans les départements de la Moselle, de la Corrèze, de la Haute-Saône. Comment on explique ce phénomène-là ?
Alors là, bonne question. Après, moi, je connais pas trop ces territoires-là, mais ça pourrait être, par exemple, comme Mer. Mer, les entreprises. D'ailleurs, mais bon, il y a un collectif qui s'est monté. J'espère que je crois que vous devez le rencontrer. Ça va être hyper intéressant parce que ils seront bien au fait du sujet. Un collectif citoyen qui s'est monté contre ça. Là, en l'occurrence, la Mer, c'est carrément c'est de la logistique de transport, en fait. Donc,
ce qu'il leur faut, c'est un accès routier simple. C'est-à-dire être près d'une autoroute, avoir un...
Et un entre-deux territoires, quoi. En fait, c'est ça. Il y a une position géographique qui fait que nous, la région centre, on est un peu aussi au milieu, là. Donc, du coup, c'est un peu stratégique par rapport au transport. Donc, il y a ça. Ça, c'est peut-être une des raisons.
Après, j'imagine qu'en Creuse, j'imagine plus, peut-être. J'en sais rien, mais que ça ne doit peut-être pas coûter les mêmes prix que ailleurs pour les entrepreneurs, en l'occurrence.
Oui, certainement.
Peut-être
oui.
Qu'avec le prix de l'essence, ça va les détendre. Mais...
Après, non, on n'a pas toutes les explications. Hein. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est vraiment très lié à la situation d'un territoire. Quoi.
Et en Loire-et-Cher, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ce territoire-là en particulier, au niveau de l'artificialisation ? Est-ce qu'il y a des spécificités ?
Par exemple, je sais que c'est un projet qui a été abandonné pour l'instant, que défendait, qu'a très très longtemps défendu Nicolas Perruchot, mais ne serait-ce que sur la ville de Blois, faire une deuxième sortie d'autoroute, plutôt du côté de, je sais pas comment ça s'appelle, plutôt du côté de Cora et tout ça, là. C'est un projet qu'ils ont porté longtemps, et où là, il y a quand même, qui n'a pas été mis en place parce que justement les gens se battent un peu contre, et je pense que les gens ont vraiment raison, parce qu'après c'est vraiment cette route de Cora, là, enfin, je sais pas, c'est la route de Vendôme d'ailleurs, elle est quand même, enfin, c'est assez impressionnant tout ce qui s'est monté. Je suis né à Blois et j'ai grandi là-bas. Quand j'étais, je n'ai que 35 ans, mais entre quand j'avais 5 ans, je me rappelle très bien, où il n'y avait que le Cora et Brico-Marcher. Et aujourd'hui, l'étendue des usines et des magasins et de tout ça, il n'y a rien de rassurant de se dire qu'il y aura une fin, en tout cas. Enfin, voilà, c'est... Et donc, tu te dis qu'avec encore un nouvel accès, qui en plus, je ne sais pas s'il est vraiment justifiable, puisque l'autre est... C'est pas comme si l'autre était débordé de chez débordé. Et du coup, tout ça pour après réagrandir au final cette zone, je suis pas sûr que ce soit des solutions, que ce soit de réelles, vraies solutions. Je pense que plutôt dans un mandat, si on arrive à caler une sortie d'autoroute quelque part, c'est bien. Et on a la sensation d'avoir fait sa part de politique et d'avoir laissé
Son
son mieux.
empreinte.
Voilà.
Après, effectivement, il y a l'histoire des zones commerciales périurbaines, hein, ça c'est aussi je pense que ça doit jouer aussi sur l'artificialisation des sols, hein, parce que bon, c'est pas un mythe, hein, le fait que les centres-villes un peu sont de moins en moins vivants, parce qu'il y a des zones industrielles qui se montent en périphérie de ville, quoi. Donc ça doit jouer aussi, hein, parce que c'est général partout, ça, ce genre de projet. Voilà, je suis pas sûr aussi que ce soit d'un intérêt fou, mais après c'est des choix.
La lutte contre l'artificialisation des sols, c'était l'une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Et la politique du gouvernement, c'est une zéro artificialisation nette. Qu'est-ce que vous pensez actuellement de cette politique et de la vision du gouvernement sur cette zéro artificialisation nette?
Typiquement, la Convention citoyenne, le gouvernement n'a ça part d'un bon principe. Hein. Moi, je trouve que de demander aux citoyens, c'est même la base. Seulement, de tout ce qu'on est ressorti, je suis pas sûr que le gouvernement suive déjà ce que la Convention citoyenne avait choisi. Typiquement, Vuitton à Vendôme, de la manière dont ils s'installent, au sein de notre territoire, c'est plutôt une politique qui ressemble à notre gouvernement. Donc, je ne pense pas que cette convention climat elle ait un réel, enfin,
Impact.
qu'elle ait été écoutée ou un impact, comme peut-être les gens qui en ont fait partie le souhaiteraient, quoi.
Malheureusement, je crois que c'est beaucoup de discours politiques, mais
Oui.
après, dans les faits,
Un président, il est élu pour 5 ans. Il a un pro, il a, une, enfin, il fait campagne en disant des choses. Ensuite, il a un programme. Ensuite, il le fait ou il ne le fait pas. Parce qu'il y a plein de paramètres qui font que déjà c'est compliqué. Et après, 5 ans, c'est aussi rapide. Donc là, on voit bien que de toute façon, il se passe plus grand-chose depuis 1 an presque, parce que là, ça va être les nouvelles élections. Alors après, il y a aussi enfin, il y a un paquet d'autres événements qui font que c'est pas forcément simple, mais je trouve que les politiques, ils manquent vraiment de courage et pour avoir des convictions, les mettre en place et s'y tenir, quoi. Et pas 5 mois avant faire des revirements ou dégeler l'indice des fonctionnaires pour que, enfin, c'est un peu, tout ça, c'est des effets de, là, ça va être des élections, donc c'est un peu des effets d'annonce. Et le problème dans l'agriculture, c'est que c'est des fois un peu ça. Le gouvernement qui est en place a voté, on a voté des lois qui faisaient que, par exemple, dans le Loir-et-Cher, il y a un peu de producteurs de betteraves. La loi a été passée pour que les néonicotinoïdes soient interdits. Donc, c'est quand la molécule elle est au sein même de la graine et qu'elle va se diffuser tout au long du cycle de la plante. Et ça, c'est quelque chose que les apiculteurs, par exemple, défendaient un maximum, puisque ça tue vraiment abeilles et autres insectes, mais ça les concernait principalement. Et là, le courage des politiques, c'est qu'on vote une loi comme ça, et que dans la foulée, on demande des dérogations pour que ce soit encore, que ça puisse être encore utilisé, quoi.
Malheureusement, c'est souvent la politique du un pas en avant, deux pas en arrière. J'aime pas dire ça, mais en fait, c'est vraiment vrai, parce que là, c'était le cas pour ça. Là, c'est le cas en ce moment. Aujourd'hui, là, notre ministre de l'Agriculture, il a annoncé qu'on pouvait détruire les jachères, détruire les haies, parce qu'il faut produire, parce qu'il y a la guerre en Ukraine, donc il faut produire beaucoup de céréales. Mais alors qu'à la base, à un moment donné, il y a aussi une urgence climatique en face de ça. Et voilà, c'est ça le problème, en fait, c'est qu'il y a des moments où, ok, il y a la guerre en Ukraine, mais c'est pas une raison de détruire des
Non,
jachères, c'est des
si
endroits
on veut
où.
vraiment agir. Là, on a particulièrement, nous, on est hyper contents parce qu'on a particulièrement un ministre, Julien de Normandie, qui est vraiment, qui, je pense, est vraiment mené par les lobbies, qu'ils soient agricoles ou même syndicaux. Et là, c'est, enfin, ils prennent des décisions qui sont, c'est vraiment dommage, quoi. Enfin,
Oui, la transition, normalement, on est censé faire une transition aussi sur nos pratiques agricoles et malheureusement, je suis pas sûr que ça soit là, on soit dans une grande, très très bonne direction parce qu'en fait, c'est toujours la course à l'investissement, les aides sont à l'investissement, mais c'est pas forcément là le problème.
Sachant que c'est des systèmes qui sont et on le sait parce qu'il y a vraiment plein de paysans qui galèrent et qui ont pourtant une surface largement rémunératrice et même source d'emploi et qui sont seuls aujourd'hui dans des systèmes où ils sont piégés par les coopératives à acheter des semences à des endroits, à acheter des produits à des endroits, à acheter tout ça parce que c'est tout, on produit comme ça. Et après, vendre des céréales pas forcément chères ou d'un seul coup parce que va y avoir un événement planétaire, quel qu'il soit, là on va vendre notre camelote très très cher. Enfin, c'est vraiment, du coup, parce qu'il n'y a aucune vision sur l'avenir, puisque la céréale que je produis, un jour coûte ça, le lendemain elle coûte ça. En fait, là, on est vraiment, on se retrouve avec des paysans, c'était la même chose pour la fleur avant en France, par exemple. Aujourd'hui, on fait presque plus de fleurs coupées, mais les gars, tous les matins, en fait, ils regardent le cours de la bourse pour savoir exactement ce qu'ils doivent faire, et ça ne devrait pas exister, ça ne devrait pas être au CAC 40, la bouffe, quoi. C'est pas normal. Et puis le métier de paysan, c'est pas trop ça non plus, même si ça en fait partie, et nous-mêmes on est sur des systèmes où on fait le produit de A à Z, donc on le vend. Enfin, même un été, les étés où hors guerre, hors tout ça, où en Russie il y a des gros incendies, et ben là on se retrouve nous à pouvoir vendre du blé très très cher, nous Français je parle, à vendre du blé très très cher, mais l'année d'après il se passe pas ça, et puis d'un seul coup ça ne vaut plus rien, alors il y a aucune. C'est vraiment.
L'effet papillon.
Du coup, c'est hyper compliqué de devoir gérer ça. Et typiquement, quand on a des systèmes où on est surdépendant d'à peu près, enfin, de coopératives et de trucs comme ça, alors là, on court droit à la cata. Alors que sur le papier, ça devrait pouvoir aller. Enfin, quand on est seul avec presque 200 hectares, on devrait largement pouvoir avoir un revenu. Et ces gars-là, au final. Des fois pas de revenus, et on le voit, le taux de suicide chez les paysans est énorme. Enfin,
Et cette
et ça, tout.
dépendance, elle est aussi du côté des élus qui font face à des demandes fortes pour plus de constructibles, du côté des ménages aussi qui sont incités à devenir propriétaires en périphérie parce que les coûts sont modérés. Comment, à votre avis, au niveau des particuliers, comment on peut essayer de lutter contre cette artificialisation quand on veut acheter un bien ou s'installer et acheter une terre.
Bah, faut peut-être un peu plus rénover déjà. Peut-être justement, si pour le particulier, peut-être aller plus vers de la. Enfin, bon,
Restaurer déjà du bâti ancien.
c'est ça.
Et puis après, aujourd'hui on le voit, alors je dis pas que tout le monde doit s'installer comme ça, mais y a quand même beaucoup de projets pour des logements à plusieurs, mais chacun dans son logement. Enfin, on sent bien que le projet est réfléchi, quoi. Les gens ne s'installent pas n'importe où, ne construisent pas avec n'importe quel matériau. Et que sur le modèle du bâti et tout ça, on fait en sorte de faire attention à l'environnement et de pas avoir une maison qui va être montée donc en parpaing, avec un accès bétonné, avec une terrasse bétonnée, avec avec tout ça, et même parce que même les entrepreneurs aujourd'hui, quand ils montent des maisons, ne séparent pas forcément terre végétale et la terre qui est en dessous. Donc chez nous, c'est très argileux, et ils remettent la couche d'argile au-dessus, ce qui fait que les gens ont déjà pas un beau jardin au final, et qu'en plus on n'y fera rien pousser, donc même une haie pour se protéger ou pour refaire un peu d'infiltration, tout ça, on va galérer, quoi. Donc je pense vraiment qu'on peut faire des efforts là-dessus. Et puis comme vous disiez, pour l'accès, aujourd'hui on est obligé de s'écarter un peu des villes et des centres, en tout cas pour que ça coûte moins cher pour les gens, alors qu'il existe quand même très souvent beaucoup beaucoup de bâtiments qui sont vides, et qu'on y ferait des projets. Je parle pas forcément de maisons passives ou quoi que ce soit, mais on y ferait des projets pour faire des logements sociaux ou pas, en tout cas type immeuble, mais sans que ce soit un gros tas de béton avec quatre fenêtres ou une crête de chaud l'été et on a très froid l'hiver. Je pense qu'on a les moyens aujourd'hui de faire ça, et qu'au final c'est bien plus pérenne, et qu'au final toutes ces solutions-là coûteraient moins d'argent. Mais le problème, c'est qu'un mandat ne dure que 5 ans, un mandat présidentiel ne dure que 5 ans. Donc faire des choses où c'est que dans 20 ans qu'on va avoir le bénéfice de tout ça, je crois que les politiques sont pas prêts aujourd'hui à faire ça, quoi.
Au tout début de l'interview, donc on parlait de l'action du 31 mars à venir, et Paul-Emmanuel, tu parlais de cette volonté aussi d'adopter d'autres types de contestations, par exemple la fausse cérémonie. Est-ce que ça, c'est des choses au sein de la Confédération paysanne qui sont importantes et où vous débattez sur comment adopter d'autres formes de contestation et de sensibilisation auprès du grand
Oui,
public?
on sent bien aussi que nous, on n'est pas assez visible, on n'est pas assez connu aussi sur le territoire, alors que y a des choses qui sont faites, mais c'est vrai qu'il y a plein de façons de lutter quelque part. Donc nous, on l'a beaucoup fait longtemps, historiquement, en étant représenté dans les institutions, dans les endroits où on peut décider. Et encore, c'est pas évident parce que on est toujours très minoritaire. Donc ça a toujours été un peu là où on agit avec la Confédération paysanne, mais là on a envie aussi d'aller un peu plus loin parce qu'on sait que la société civile, c'est quand même, la population est plutôt d'accord avec nous sur notre discours. Donc effectivement, interpeller, trouver d'autres moyens. Les manifestations, c'est encore autre chose, mais je pense qu'on sait que voilà, il y a plus vraiment trop d'effets avec les manifestations. Ça peut fonctionner, mais c'est quand même très difficile, quoi. Donc on voit bien qu'il y a des nouvelles méthodes de contestation. Elles changent un petit peu et je trouve que c'est plus pertinent quand on est sur des nouvelles façons de contester l'ordre un peu. Hein, donc effectivement, le canular, un peu jouer avec l'humour aussi. Voilà, c'est un peu l'idée, hein, c'est de jouer avec l'humour pour interpeller et faire comprendre des choses à la fois aux gens, enfin à la société civile et aux politiques. Voilà, on se dit que c'est peut-être d'autres méthodes qui peuvent rendre plus visible la Confédération paysanne et en même temps élargir un peu le cercle paysan aussi. C'est aussi, on s'inspire quand même de mouvements. Il y a, comment, je sais plus comment ça
Yes
s'appelle,
men.
les, comment les?
Les yes men.
Ouais, c'est ça, aux États-Unis, là, il y a eu un mouvement là-dessus, qui ont joué là-dessus. On s'est un peu inspiré d'eux, hein, clairement. Parce que eux, ils lancent des infos comme ça, un peu comme le Gorafi. C'est tellement gros qu'on en rigole, mais n'empêche que c'est pas si loin de la réalité. Et c'est un peu ouais, le Gorafi, c'est un peu ce qu'ils font aussi, quoi. Sur le côté humoristique aussi. Et bon,
Après,
on verra bien.
pénalement, oui, déjà on verra bien, et puis pénalement on prend sûrement moins de risques. Enfin,
Oui, parce que c'est très clair. Même
c'est
si on fait
clair.
la fausse cérémonie, c'est à nous afficher partout que c'est faux. Voilà, à la fois sur notre panneau d'affichage, sur les tracts qu'on va
Ouais.
distribuer autour,
Enfin,
on va
ça prouve
pas.
ça, mais c'est juste qu'au moins, voilà, ça change. La Confédération paysanne, ils ont démonté des McDonald's, ils ont fait des.
Oui.
Et aujourd'hui, on a quand même aussi de la répression qui est des fois un peu forte, disproportionnée. Enfin,
Face aux
donc,
actions.
ouais. Du coup, voilà. Après, là, c'est aussi que dans le syndicat, on est pas mal de jeunes. Peut-être que ça joue aussi sur d'autres systèmes, d'autres envies, quoi.
Ouais, parce que c'est vrai qu'on est une génération qui peut-être ne croit plus trop à la manifestation aussi. Enfin, en tout cas, moi, en tout cas, personnellement, c'est un peu ça. J'ai du mal à croire vraiment l'effet que ça a après. Donc, on réfléchit à d'autres façons de contester, quoi, clairement.
Est-ce que vous, le terrain du numérique aussi est un champ d'action sur lequel vous vous penchez?
Alors, au jour d'aujourd'hui, on n'est pas très fort là-dessus.
Ouais, après, on va le faire. En fait, l'idée numérique aussi, c'est de remettre un peu des deuxième couches de contestation, parce que là, typiquement, ce qu'on va faire jeudi, tout sera filmé. Donc il y a un premier effet sur le jour même, un deuxième effet. L'idée, c'est que le deuxième effet soit dans la presse le lendemain, et un troisième effet une semaine après, quand on refera une rediffusion sur les réseaux. Voilà. Bon, après, nous, c'est vrai qu'on est, nous, on est on est jeune, mais on n'est pas non plus TikTok, on n'est pas la génération TikTok, on est entre deux, quoi. On est plus les générations Facebook ou un peu Instagram, quoi. Mais c'est vrai que, bon, voilà, on est déjà, en fait, on est vite dépassé aussi par les réseaux, hein. Ça va tellement vite que c'est pas facile d'être à jour. Mais voilà, après, on va le faire de cette façon-là, par les réseaux, quoi. Voilà.
Donc on rappelle l'action, c'est ce jeudi 31 mars à 11h30 à Naveil, c'est bien ça?
C'est entre Naveil et Vendôme. C'est
D'accord.
quand même sur la commune de Vendôme, mais c'est vrai qu'on est juste à côté de Naveil.
Ouais.
Le quartier s'appelle le Lubidé. Je sais pas comment s'appelle cette rue.
Non,
C'est
faut
dommage.
suivre les bios du coin. Les bios
Ouais.
du coin.
On a un magasin de producteurs qui est au bout de la rue, et en gros, c'est entre Vendôme et le magasin de producteurs. Il y a cette parcelle-là qui est quand même pas négligeable, hein, 7 hectares, donc on la voit. Hein. Aujourd'hui, elle est cultivée par des paysans, mais elle appartient encore à la ville de Vendôme. Mais d'ailleurs, elle est cultivée en conventionnel. Ça pose problème à personne, alors
Ouais, alors
qu'il
qu'elle est
pose.
entourée de maisons.
Il y a des maisons tout autour. Je veux dire, il y a des traitements qui sont faits juste à côté des maisons. C'est quand même, hein, c'est pareil. Je veux dire, si on veut aller encore plus loin dans le sujet, c'est assez. Voilà, on peut en parler, ça. Bah, venez nombreux jeudi, hein, voilà, on a besoin d'un public justement qui soit plutôt heureux, voilà. L'idée, c'est plutôt d'être content qu'il y ait une inauguration, donc c'est pour ça que ça change aussi. On n'est pas là pour contester, enfin, on n'est pas là pour on n'est pas dans le non, quoi. On est plutôt dans le dans le oui, c'est possible, mais il faut se donner les moyens, quoi. Donc voilà, faut se donner enfin, venez nombreux jeudi à 11h pour être en avance, pour attendre monsieur le maire qui va arriver en grande pompe à 11h30, voilà.
Et bah merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de l'artificialisation des terres et puis des nouvelles méthodes de contestation et de mettre en lumière la Confédération paysanne. Bonne journée et puis merci pour cette interview.
Merci à
Merci à
vous.
vous.